Bonjour Camille Magnat.
Bonjour.
Comment bien réussir son coup d'État? Ça pourrait être le titre de l'article du New York Times qui a retenu votre attention ce matin.
Article signé par Mark Fisher et qui part du postulat que le Vénézuélien Juan Guaido a échoué cette semaine à faire tomber le régime chaviste de Nicolas Maduro. Il a d'abord dit qu'il avait l'armée derrière lui, mais il ne pouvait en fait compter que sur le soutien de quelques centaines de déserteurs. Il a ensuite appelé les généraux à lâcher Maduro, mais ces derniers ont réaffirmé leur loyauté au président. Alors, Mark Fisher s'interroge dans le New York Times. Qu'est-ce qui fait qu'un coup d'État réussit ou bien échoue? Pour répondre, il prend pour exemple la Libye de 1969. La monarchie, à l'époque, est à bout de souffle. Des rumeurs incessantes annoncent que les chefs de l'armée vont prendre le pouvoir. Du coup, quand une colonne de jeeps s'empare du siège du gouvernement à Tripoli et annonce la fin de la royauté, eh bien, personne n'est vraiment surpris. Tout le monde est sûr que les militaires sont aux commandes et dans les casernes de tout le pays, on fait le ménage, pour le dire poliment, pour sécuriser le nouveau pouvoir. Sauf qu'une semaine plus tard, on comprend que ce n'est pas l'état-major, mais bien un lieutenant affecté aux transmissions, épaulé par quelques dizaines d'officiers de second rang qui a organisé le putsch. Cet homme s'appelle Muammar Kadhafi, il a pris tout le monde de court et il va rester au pouvoir, on le sait, 42 ans. Tout ça pour dire donc avec Mark Fisher que quand on veut renverser un pouvoir, il faut arriver à créer autour de soi l'illusion de la confiance, du consensus et de l'inévitabilité des événements. L'auteur voit une confirmation de sa théorie dans les révolutions récentes en Algérie ou bien au Soudan, où dans les deux cas ce sont les militaires qui ont cueilli le fruit gâté du pouvoir conspué par les peuples.
Mais Camille, au Venezuela, ça n'a pas fonctionné et pourtant Juan Guaido est appuyé par des alliés puissants, à commencer bien sûr par les États-Unis.
Dès lors, que reste-t-il de cette tentative ratée de retourner l'armée vénézuélienne? Dans The Independent, à Londres, le philosophe sud-américain Oscar Guardiola Ribera tire cette conclusion sans appel. Ce n'est pas avec des médias que l'on réussit un coup d'État. Et force est de constater que de la révolution vénézuélienne promise par Guaido, il ne reste pas grand-chose d'autre qu'une gigantesque opération de relations publiques. Le premier putsch de l'histoire à être uniquement orchestré à l'aide de la presse, une préfiguration du coup d'État latino-américain à la mode du 21e siècle. Vous affirmez aux journalistes et aux réseaux sociaux que vous avez l'armée avec vous, vous publiez comme preuve des photos soignées de militaires aux armes rutilantes, mais derrière, il n'y a rien ou pas grand-chose. Oscar Guardiola Ribera rappelle qu'en 1973, au Chili, la première chose que Salvador Allende et que Pinochet et ses alliés, déjà les milieux d'affaires et les États-Unis, avaient fait pour lancer leur putsch, c'était de faire taire les médias. Aujourd'hui, c'est tout le contraire que l'on essaye de faire et force est de constater, pour le moment en tout cas, que ça dure depuis des mois et que ça ne marche pas.
Et puis en attendant le journal de 8h et Clara Lecoq-Réal que nous retrouverons en direct de Bruxelles, vous nous parlez, Camille, de politique européenne avec Angela Merkel qui répond aux populistes Salvini et Orban.
Et oui, car hier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban recevait à Budapest le ministre de l'Intérieur et leader de l'extrême droite transalpine, Matteo Salvini. À eux deux, ils incarnent cette nouvelle droite européenne radicale, europhobe, islamophobe, anti-immigration et clairement populiste dans ses discours. Cette droite qui n'en finit pas de bousculer l'Union européenne. Ces deux-là, hier, se sont mis en scène à la frontière hongroise, puisque c'est leur credo de défendre l'Europe et ses frontières contre l'invasion migratoire. La rhétorique est sans pincettes, citée par Die Welt, outre-Rhin. Si la gauche l'emporte aux européennes, l'UE va devenir un califat islamique. Alors les deux hommes frontières, comme les rebaptise la télé publique allemande ARD, ont annoncé hier qu'ils comptaient réaliser derrière eux l'alliance de la droite conservatrice européenne incarnée par le PPE et la nouvelle droite populiste menée, c'est en tout cas ce qu'il affirme, par Salvini. Orban, nous rappelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, est membre du PPE, même si son parti, le Fidesz, en a été suspendu pour ses outrages anti-européens à répétition. Le Premier ministre hongrois est donc persuadé que s'il remporte les élections dans son pays le 26 mai, il sera en position de force au sein du premier parti européen pour orchestrer le rapprochement avec Salvini et consorts. Car en parallèle, l'Italien lance avec l'AFD en Allemagne, le Rassemblement National en France, le FPE en Autriche, la création d'une alliance européenne des peuples et des nations. La jonction entre droite traditionnelle et droite extrême serait-elle sur le point d'advenir à l'échelle européenne ? Moi vivante, il n'en est pas question, semble répondre la chancelière allemande Angela Merkel. Donc, nous dit Der Spiegel, a dérogé hier à la règle qui veut que l'on ne parle pas de politique intérieure quand on est en déplacement à l'étranger. Elle était à Niamey, au Niger, et elle a donc fermement exclu toute coopération du PPE ou la CDU, son parti est très influent, toute coopération avec l'extrême droite. On en reparle après le scrutin du 26 mai.
Et puis Camille, il nous reste quelques secondes pour évoquer la mémoire d'un acteur dont on ignore à peu près tout, mais dont la mort semble attrister à peu près tous les médias du monde.
Oui, cet acteur dont le visage souriant et l'impressionnante carrure s'étale en une de très nombreux journaux ce matin. C'est le Britannique naturalisé américain Peter Mayhew. Le nom, déjà, ne vous dira pas grand-chose. Le visage non plus, non. Parce que Peter Mayhew, nous éclaire CNN, c'est l'acteur qui incarnait sous la fourrure le personnage de Chewie Chewbacca, pilote de vaisseau Wookie, hirsute mais attachant, inséparable de Han Solo Harrison Ford dans les 5 premiers épisodes de La Guerre des Étoiles.
Chewie, is that you? Chewie! I can't see, pal. What's going on?
Alors on reconnaîtra avec le magazine Variety que ce n'était pas gagné d'accéder à la postérité avec de tels dialogues et un jeu d'acteur qui était réduit finalement à des gestes, des postures. Mais justement, Peter Mayhew avait réussi cet exploit et avec des mouvements corporels, des inflexions de mâchoire ou de front, il était arrivé à rendre son Chewbacca expressif, à en faire en fait l'un des personnages les plus populaires de Star Wars. C'est d'autant plus remarquable, complète le Daily Mail, que même la voix de Chewbacca, qui pourtant fait tout le côté culte du personnage, n'était pas interprétée par Mayhew. Elle était reconstituée en post-production par un ingénieur du son qui mixait ensemble différents cris d'animaux. Du coup, les nécrologies qu'on lit dans les journaux ce matin saluent surtout la bonté d'âme de Peter Mayhew, son amitié avec Carrie Fisher, l'interprète de la princesse Leia qui est décédée, elle, on s'en souvient, en 2016. Au fond, Peter Mayhew le reconnaissait lui-même s'il avait été choisi pour le rôle de sa vie, hein, alors qu'il travaillait comme aide-soignant à l'époque en Angleterre et qu'il était un acteur de seconde zone. C'était surtout pour sa taille, le grand acteur mesurait 2,18 m.
Merci Camille Magnard, revue de presse internationale à retrouver sur le site de France Culture.